autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Notre cerveau nous est très utile, mais il ne faut pas toujours lui faire confiance. De bonne foi, nous pouvons commettre de graves contresens, comme des faux témoignages qui peuvent entraîner des erreurs judiciaires. Il y a aussi des faux souvenirs. Certaines personnes peuvent ainsi être convaincues à tort d'avoir été victimes de viol ou d'inceste. On peut encore citer le biais qui nous incite à voir le monde de façon binaire, d'un côté le bien, de l'autre le mal, d'un côté le faux, de l'autre le vrai, alors que la vérité est généralement plus complexe. Beaucoup de gens sont aussi la proie de l'illusion de savoir, qui est bien plus dangereuse que la conscience de sa propre ignorance. Décryptons les nombreux et pernicieux tours que nous joue notre cerveau dans la vie quotidienne, aussi bien dans le monde du travail que dans les relations sociale et amoureuse, avec notre invité, le psychologue Albert Moukébert. Albert Moukébert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, également enseignant en psychologie à l'Université Paris 8 à Paris, donc, et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary. D'où vous êtes venue cette idée de livre sur le cerveau, puisqu'il y a déjà beaucoup de livres sur le cerveau, surtout en ce moment, c'est un sujet d'actualité en fait.
Tout à fait, c'est un sujet d'actualité. Donc moi je suis psychologue, j'ai fait aussi des recherches en neurosciences, et je voulais essayer d'apporter ma contribution un peu, d'essayer de faire des liens entre l'appareil psychique humain, la psychologie et les neurosciences, et de faire un livre qui soit donc basé sur la littérature, donc qui conserve la complexité du sujet, sans que ça soit compliqué de faire simple sans faire simpliste, parce que beaucoup de fois, parce que le cerveau a un peu la cote, on sursimplifie, et je trouve qu'on perd ce qui nous rend intéressant. Donc c'est un peu d'essayer d'apporter une vision un peu plus complexe de cet organe fascinant.
Oui, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez vraiment de choses très concrètes, puisqu'il y a beaucoup de livres qui parlent notamment des fake news, un point de vue sociologique, ouais. Et notamment les livres du sociologue Gérald Bonner, que vous connaissez bien, que nous avons reçu aussi.
Bonjour à Gérald.
Voilà, on salue. Vous partez, disons, de votre expérience de clinicien avec des problèmes que les gens ont dans la vie de tous les jours.
Effectivement. Voilà, c'est un peu les biais de la vie courante. C'est-à-dire, c'était aussi ça que je voulais faire
Donc vous avez un cabinet où vous exercez, donc les gens viennent voir pour tous les problèmes que les gens peuvent avoir, et vous les aidez, mais aussi en s'appuyant sur vos recherches, enfin sur vos connaissances en neurosciences, puisque vous êtes également docteur en neurosciences.
Exactement.
C'est ça l'originalité.
Donc, j'ai fait ma thèse en neurosciences sur les troubles anxieux, sur la phobie sociale. J'essaye d'utiliser ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement de la psychologie, pour essayer d'unifier un peu l'expérience subjective de la vie avec nos connaissances sur les bases biologiques.
Vous avez une méthode particulière qu'on appelle la psychoéducation. On y reviendra, vous nous direz quelques mots de quoi il s'agit, on reviendra ensuite là-dessus.
La psychoéducation, c'est vraiment d'expliquer aux patients qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur cerveau vis-à-vis des difficultés qu'ils présentent. Donc par exemple, quelqu'un qui vient me voir qui a peur de parler en public, je vais essayer de lui expliquer qu'est-ce qui se passe
dans le cerveau.
Dans le cerveau, et comment est-ce que ce savoir peut l'aider à dépasser cette peur.
Vous parlez aussi alors de questions très sociales, très politiques, par exemple les erreurs judiciaires qui peuvent conduire certaines personnes à donner des faux témoignages, mais en toute bonne foi.
Oui.
Donc alors là aussi, on est victime d'erreurs de notre cerveau.
En fait, c'est un peu ça aussi que je voulais expliquer, c'est que souvent quand on parle de fake news, quand on parle de faux témoignages, quand on parle de toutes ces choses, on a tendance à croire qu'il y a des personnes qui ont des intentions malicieuses derrière. Ça existe, mais c'est souvent l'exception. La majorité du temps, on est de bonne foi. Effectivement, par exemple, sur les faux témoignages, souvent une personne veut aider la victime, veut aider l'enquête judiciaire ou l'enquête policière, et fait de son mieux. C'est juste que notre mémoire et notre attention sont des outils imprécis, c'est des ressources très limitées, et donc on se trompe, mais on ne le sait pas.
Et vous vous basez aussi sur des expériences qui ont été effectuées en laboratoire. Par exemple, on montre à des gens une vidéo d'accident de la route. Ouais. Et insidieusement, selon les mots qu'on va employer pour interroger ces gens à qui on a montré la photo, ils vont dire soit il s'agit d'un accident grave, soit d'un simple heurt.
En fait, c'est une vidéo où on montre un accident. C'est une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Loftus qui a fait ça. On montre un accident de deux voitures. Et après, on demande une question aux personnes qui ont vu la vidéo. À un groupe de gens, on leur pose la question, est-ce que la vitre s'est brisée quand les voitures se sont touchées, heurtées? Et à un autre groupe, on va demander, est-ce que la vitre s'est brisée quand les voitures se sont écrasées? Et quand on utilise le verbe écraser, les gens ont tendance à se rappeler que les vitres se sont cassées. Et quand on utilise le mot se sont heurtées ou se sont touchées, les gens ont tendance à croire que les vitres ne se sont pas cassées. Et là aussi, ça implique beaucoup, ça pose beaucoup de questions sur l'implication des sondages, des référendums, des questions.
La façon dont on pose la question.
La façon dont on pose la question implique énormément la réponse qu'on en obtient.
Et par exemple, alors les policiers sont au courant maintenant de ce genre de biais, ils font attention à...
Exactement, maintenant il y a de plus en plus de formations sur comment poser des questions qui ne soient pas... qui réduisent en tout cas la marge d'influence que la question va avoir sur la réponse pour essayer d'avoir des réponses qui soient de meilleure qualité autant que possible. Alors, en sachant que dans certains cas, l'information n'est même pas disponible. La personne est encore une fois de bonne foi.
Et ces erreurs de notre cerveau, ces erreurs qui conduisent à des erreurs judiciaires notamment, rejoignent aussi la question du racisme, puisqu'on apprend, donc il y a une expérience très éloquente décrite dans votre livre, si on demande à des enseignants d'évaluer les élèves dans une classe selon si ce sont des blancs ou des noirs, ils vont avoir un comportement différent. Est-ce que vous pouvez nous résumer
ça? On demande à des enseignants de monitorer, de regarder une classe, on remarque qu'ils sont plus vigilants sur les enfants, c'est aux États-Unis, sur les enfants qui ont la peau noire que sur les enfants qui ont la peau blanche. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet effet existe indépendamment de la couleur de peau du prof. C'est-à-dire, ça existe même chez les profs qui sont de couleur noire.
Comme si inconsciemment, ils étaient imprégnés de l'idée que les noirs allaient être plus turbulents.
Exactement, on appelle ça des biais implicites. Et donc là aussi, la personne, si on vient, on lui dit « mais tu es raciste », elle se reconnaît pas du tout. C'est vraiment, donc c'est des biais inconscients implicites. On discrimine sans même réaliser qu'on est en train de le faire. Et ça a été refait avec les femmes en entreprise, avec les petites filles et les matières scientifiques à l'école, avec des jeunes issus de l'immigration.
Donc avec les petites filles, c'est-à-dire on a conditionné par le fait qu'on s'imagine que les petites filles sont moins bonnes.
Exactement.
En
donc on met moins attention. Il y a une recherche qui a été faite sur ce sujet. On donne le même exercice de maths à un groupe de filles et à un groupe de garçons, et les filles le réussissent moins bien, puis on redonne le même exercice à d'autres groupes mais qui ont le même niveau, et on leur dit cet exercice de maths a été développé pour les petites filles alors que c'est le même exercice que la première expérience, et là tout le monde le réussit de la même manière. C'est-à-dire, même des fois, on s'auto-limite. Donc ces petites filles, parce qu'on leur a dit c'est des maths, elles-mêmes mettaient moins d'efforts, ou en tout cas s'attendaient à moins le réussir, donc le réussissaient pas. Alors que quand on leur disait c'est un exercice de maths pour les petites filles, ça débloque chez elles-mêmes. Donc c'est comme si c'est une discrimination sur soi-même.
On
aussi
est conditionné par des a priori. Ouais. Pour en revenir juste une petite seconde sur le racisme, justement, alors il y a une expérience que vous décrivez dans laquelle on montre à des gens des photos et on leur dit voilà, est-ce que cet homme est armé? Et si c'est un noir qu'on montre en photo, les gens ont l'impression, enfin, disons, vont dire plus souvent qu'il est armé, même s'il ne l'est pas. C'est bien
ça. Il dit ça, mais surtout, quand on montre une personne noire armée versus une personne, par exemple, blanche armée, les personnes appuient sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton armé, pas armé. Ils appuient plus vite. Et l'inverse aussi, une personne blanche non armée, on appuie plus vite sur non armée qu'une personne noire non armée. Donc c'est comme si on a plus de temps de travail pour accepter un blanc non armé et moins de temps de travail pour accepter un noir armé.
Un bien inconscient, même chez des gens qui se défendent absolument d'être racistes.
Ah, mais même chez des personnes qui sont elles-mêmes de couleur noire ou blanche. Oui.
Alors, ce genre d'erreur de notre cerveau peut conduire dans le domaine psychologique ou médical aussi à ce qu'on appelle les faux souvenirs.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arnaque aux faux souvenirs induits. Le principe, faire croire à une personne fragile que sa souffrance vient d'un traumatisme qu'elle n'a en réalité jamais vécu. Marie-Catherine, 44 ans, est kinésithérapeute. Elle est jugée depuis le 20 février à Paris pour abus de faiblesse sur 6 patientes. Dans son cabinet, elle recevait des femmes trentenaires, issues de milieux privilégiés. L'une d'entre elles raconte.
Elle m'a dit des choses assez crues, que j'étais une menteuse, pourrie de l'intérieur, que mon père avait sans doute abusé de moi, que j'avais eu une relation incestueuse avec mon frère. Au fil des séances, je me suis coupée de toute ma famille, de tous mes amis. Elle m'a fait comprendre qu'elle était la seule à pouvoir me sauver.
Chaque séance coûte 100 euros en espèces. Mais ce n'est pas tout. Une victime va jusqu'à lui donner 800 000 euros en un an. Une autre lui vend son appartement parisien, que la thérapeute va revendre 7 fois plus cher. Marie-Catherine aurait dit qu'il fallait donner cet argent malsain, pour le purifier et le libérer des ondes. Si l'escroquerie est avérée, cette femme risque 3 ans de prison.
C'était un extrait de la chaîne YouTube Draw My News. Albert Moukébert, cette question des faux souvenirs, vous la connaissez bien.
Oui. C'est, en tant que thérapeute, l'outil principal, mon outil principal de thérapie, c'est les souvenirs, la mémoire de mes patients. Ils viennent, ils me racontent leur journée, ils me racontent leur enfance, ils me racontent leur adolescence, etc. Et donc comprendre comment les souvenirs fonctionnent, combien notre mémoire est malléable. On a tendance que le passé est un peu figé, mais le passé dans notre cerveau, il est constamment en train d'être réécrit. À chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous êtes en train de le réécrire. C'est comme ça que certaines vacances, plus on en parle avec les potes, et plus on a l'impression qu'on s'est vraiment beaucoup amusé, alors que peut-être sur le moment même, c'était des vacances cool, mais sans plus.
Oui, mais alors cette question-là, alors, c'est-à-dire, ce sont des escrocs qui se font passer pour des psychologues, des charlatans, qui vont donner l'impression à des gens de toute bonne foi qu'ils ont été victimes, par exemple, d'un inceste, et au final, des gens vont être condamnés à tort, c'est bien cela.
Alors, il y a les deux. Mais c'est là aussi le challenge et pourquoi le sujet est très complexe et aussi très sensible, c'est que il y a les deux. Il y a des personnes qui sont des charlatans, clairement comme cette personne Marie-Catherine Fanekam qui est en train d'être jugée. Elle savait vraiment ce qu'elle est en train de faire, elle était vraiment en train d'induire pour avoir accès aux richesses, à l'appartement qui a été mentionné, etc. Mais il y a aussi beaucoup de fois où on appelle ça une co-construction, où le thérapeute est de bonne foi, il fait une hypothèse, il travaille avec son patient, et par exemple à travers des séances de suggestion ou d'hypnose, ou même une discussion, les souvenirs vrai avec les souvenirs faux se mélangent et on peut se souvenir d'événements traumatisants qui n'ont jamais eu lieu, mais surtout dont on ignorait complètement l'existence avant le début du travail thérapeutique. Parce que la majorité des gens qui se souviennent d'un trauma et qui viennent consulter l'ont vraiment vécu. Le but, c'est pas de mettre en doute la parole des victimes ou des patients, mais...
Oui, mais alors ces gens-là peuvent être vraiment convaincus, totalement convaincus d'avoir été victimes d'un inceste ou d'un viol, même si cette construction est totalement dans leur esprit, et ils sont convaincus aussi que cela a été refoulé. Mais parfois, dans certains cas, ça a vraiment été refoulé aussi. Donc comment faire la part des choses entre ces faux souvenirs induits et ces souvenirs refoulés qui remontent à la conscience? C'est pas facile.
C'est pour ça que ces recherches sont très importantes. Après, comme je disais, c'est très 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 rare une personne qui a vécu un trauma et qui a refoulé à 100%. Elle peut ne pas se rappeler de détails, mais elle sait quelque part qu'elle a vécu quelque chose. Donc déjà, si une personne ne se souvient de rien et après plusieurs séances, ça remonte... C'est un peu louche, disons ça un peu.
Votre cerveau vous détourne avec le psychologue Albert Moukébert.
The world.
C'était Check My Brain par Alice in Chains. Vous écoutez Autour de la question, nous sommes avec le psychologue Albert Moukébert pour son livre intitulé Votre cerveau vous joue des tours, éditions Alary. Donc il y a beaucoup dans votre livre d'exemples de la façon par laquelle notre cerveau peut nous tromper. Notamment, il y a ce que vous appelez le biais de binarité, c'est-à-dire le fait que nous fonctionnons par approximation, raccourci, en opposant alors ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est blanc, ce qui est noir, etc. Et cela peut conduire justement à de graves erreurs et contresens.
On va écraser la complexité, la nuance, et on va tout diviser en deux. Et on a tendance à faire ça parce que ça nous aide à organiser, à classer le réel. Mais effectivement, ça peut avoir des conséquences, par exemple, de polarisation de l'opinion, où je considère que les personnes qui ne pensent pas comme moi, c'est des méchants, qui sont un danger pour mon existence, et que moi, j'ai raison. Ça peut causer des violences, comme on peut le voir. Ça peut causer la montée des extrémismes. Mais aussi, ça peut impacter la qualité de l'information et de nos opinions.
Et dans votre expérience clinique, c'est-à-dire, puisque vous êtes donc clinicien, vous avez un cabinet, donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut avoir
par exemple, une erreur de la pensée binaire impacte beaucoup les personnes qui ont ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessifs et compulsifs, pour qui, par exemple, et c'est à l'extrême, mais ça touche à un moindre degré des personnes perfectionnistes, c'est-à-dire si quelque chose n'est pas parfait, c'est qu'il est nul. Oui. Et on perd cette nuance. Et donc je vais passer un temps énorme sur une tâche qui va impacter ma qualité de vie parce que je veux que tout soit par exemple rangé d'une manière complètement ordonnée.
Ils ont du mal à accepter finalement l'imperfection monde. Il faut que tout soit absolument parfait, sinon ils le vivent vraiment très mal.
Ils peuvent vraiment penser qu'ils vont, par exemple, dans les TOC, ça peut aller jusqu'à, si par exemple tout n'est pas hyper bien rangé, un membre de ma famille va mourir.
Ah oui, ce genre de choses. Donc là aussi,
c'est des pathologies.
La pensée binaire.
Exactement. C'est une pensée en noir et blanc. Si je ne fais pas cette chose, on appelle ça en anglais de la masturbation. Pas de la masturbation, du mot must. Je dois, en français, on appelle ça l'erreur aussi du devoir. Je dois faire que tout soit parfait, sinon quelque chose de très mauvais va se passer. Et donc ça, c'est dans les cas cliniques, mais dans la vie quotidienne, c'est le problème de beaucoup de personnes qui se disent perfectionnistes, qui vont des fois même faire souffrir les autres dans ce désir de perfection, parce que c'est une erreur binaire. Si mon travail n'est pas parfaitement bien fait, c'est qu'il ne vaut pas le coup, c'est qu'il ne faut presque pas le coup d'être fait.
Et vous parlez aussi des fake news, c'est-à-dire ces fameux fake news, c'est-à-dire on a toujours tendance à penser, alors soit c'est vrai, si c'est pas complètement vrai, donc c'est complètement faux, alors que la réalité est souvent entre les deux.
Partielle, je peux dire, cette news est vraie à 70%, fausse à 20% et 10%, je suis incertain, parce qu'on n'a pas accès à toutes les informations en permanence.
Il y a une image que vous utilisez qui est assez parlante, que le cerveau, on a tendance à imaginer qu'il fonctionne un peu comme un interrupteur allumé ou éteint, alors qu'en fait son fonctionnement est plutôt proche d'un volume de radio qu'on peut graduer
exactement
de façon continue.
Donc un interrupteur est binaire, c'est ou on ou off. Et alors que notre cerveau est plus qu'effectivement comme un volume, je peux être à 10%, à 20%, à 30%, à 40%, et c'est important cette nuance parce que le monde est nuancé.
Et ça peut aussi avoir un impact dans les relations sentimentales, amoureuses.
Bien sûr, ça c'est sûr.
Parce que s'il ne m'aime pas complètement, c'est qu'il me déteste, alors qu'en fait la réalité peut être entre les deux.
Exactement,
aussi.
Pour la jalousie aussi, la pensée binaire est quelque chose.
Donc
qui
vous
est
avez
important.
Aussi parmi vos patients des gens extrêmement jaloux de façon maladive.
Bien sûr, c'est même assez commun au cabinet, les relations sentimentale, c'est quelque chose qui travaille tout le monde.
Mais comment est-ce que, alors quand vous avez des patients qui viennent vous voir pour des troubles de la jalousie maladive, comment est-ce que vous pouvez les aider en utilisant justement les neurosciences
et la psychoéducation. Par exemple, pour la jalousie, déjà, une personne qui est jalouse ne l'a pas choisie. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, j'ai envie d'être jaloux. On le devient quelque part par hasard, par la force des choses, par des événements de vie. Et donc commencer déjà par ne pas se sentir responsable de chaque pensée, de chaque émotion, de chaque intuition que je ressens. J'appelle ma copine ou mon copain, la personne avec qui je suis en relation, cette personne ne répond pas et je suis jaloux, mon cerveau fait une hypothèse. Il me dit, elle te trompe.
Donc là aussi, c'est le cerveau qui trompe cette personne. Et vous décryptez, vous expliquez à la personne comment elle peut être trompée justement par son cerveau.
Exactement. Donc dans ce cas-là, c'est une fausse hypothèse. Notre cerveau, il essaye juste de nous aider, de nous donner ce qu'il croit être la meilleure hypothèse hypothèse qui explique une situation donnée. Dans certains cas, c'est très très bien et on en a besoin de ces hypothèses, mais dans d'autres cas, elles peuvent se tromper, comme dans le cas de la jalousie. Et je vais travailler avec ce qu'on appelle de la métacognition, donc les pensées qu'on a sur nos pensées, pour essayer d'aider cette personne à ne pas se sentir propriétaire.
Parce qu'elle est victime de chaque hypothèse. des hypothèses qu'elle fait inconsciemment.
Et qu'elle n'a jamais choisi. C'est-à-dire, elle n'a jamais dit, moi j'ai envie d'avoir une
grille de lecture. Donnez-nous un exemple précis pour la jalousie, ça peut être comme fausse hypothèse.
Bah j'appelle ma copine qui ne répond pas, et mon cerveau fait l'hypothèse, elle me trompe. Je ne suis pas obligé de me sentir
propriétaire. Alors que simplement, elle a eu un retard dans le métro.
Ouais, mais j'en sais rien. Elle a eu un retard, elle n'a pas entendu ce téléphone, elle est en train de se doucher, elle mange, elle a les mains sales.
Mais encore faut-il
mais pour la personne, c'est une pensée binaire. La seule hypothèse possible pour quelqu'un qui est jaloux, c'est je suis en train de me faire tromper. Et le but, c'est de nuancer.
Et cela nous amène justement au stress. Vous évoquez aussi dans un chapitre la question du stress. Oui. Et alors le stress, ça peut être négatif, mais ça peut être positif. C'est-à-dire que, eh bien, il a une utilité, le stress. Alors comment gérer justement le stress?
Déjà, pour gérer le stress, il faut comprendre c'est quoi. Et donc j'explique un peu c'est quoi, que c'est une réaction à la base face à un danger. Et le stress peut être utile selon sa temporalité. Le bon stress, pour les personnes que ça intéresse, le mot technique, c'est E-stress, E-U-S-T-R-E-2-S.
Oui, ça veut dire.
Et le bon stress, c'est quand le stress me met en action pour faire une tâche. Par exemple, imaginez que je suis Kylian Mbappé et je vais rentrer sur le terrain de la Coupe du Monde pour la finale. Il y a 2-3 milliards de personnes qui me regardent. J'ai besoin d'un peu de stress pour pouvoir.
Oui, si on y va les mains dans les poches.
Oui, si on y va tranquille, peinard. Oui. Salut les gars, ça va, on a un match de foot à faire. Ça se passe pas très bien, c'est un peu une fantaisie.
Un peu de stress, ça aide, mais
beaucoup de stress, ça devient un peu problématique.
Donc oui, parce que le stress est utile, c'est-à-dire vous parlez de nos ancêtres dans la savane. Ouais. S'ils n'étaient pas stressés, ils se seraient fait manger par le premier prédateur venu. Donc le stress, c'est aussi une question de survie.
C'est à la base, c'est que ça, et c'est pour ça que les personnes stressées, par exemple, n'arrivent pas à dormir parce que leur cerveau fait l'hypothèse qu'il y a potentiellement un prédateur. Et si moi, juste avant de me coucher, j'entends un lion rugir à côté de ma cave, je vais pas me dire bon, je vais dormir tranquillo.
Mais si alors, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est justement, c'est que vous faites le parallèle avec des questions de la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui va à un entretien d'embauche, qui est très stressé, trop stressé, il va rater cet entretien. Là, en quelque sorte, c'est un peu comme s'il y avait aussi l'ancêtre préhistorique en lui qui était devant un prédateur.
Encore une fois, si je suis stressé, pour mon cerveau, il y a un danger physique imminent. Et donc, si moi, je pense que je vais me faire attaquer dans une seconde, me rappeler de ma présentation, c'est pas important. Je vais avoir un trou de mémoire.
Vous dites alors le cerveau déclenche un mécanisme de fight and flight, ça veut dire en quelque sorte, alors s'enfuir ou combattre.
En fait, le stress à la base c'est vraiment ça, c'est un déclenchement d'une réaction qu'on appelle le réflexe du fight and flight qui est universel à tous les mammifères.
Fight, combattre, flight, s'enfuir.
S'enfuir, et si vous y pensez, on a besoin de la même préparation physique pour se battre ou pour s'enfuir. On a besoin que notre cœur s'accélère, que nos muscles soient tendus.
Donc ça c'est plutôt bon, positif.
C'est
à
bon.
Condition de ne pas trop en avoir.
Et surtout à condition qu'il y ait vraiment quelque chose de fuir ou de fight. Mais si moi, par exemple, j'ai un entretien d'embauche, être en fight et flight, je ne vais pas fighter la personne qui fait mon entretien et je ne vais pas me mettre à courir dans son bureau. Donc ça devient une réaction qui n'est pas adaptée au monde moderne. C'était très adapté quand on était encore des chasseurs-cueilleurs. Mais aujourd'hui, moi, cette interview me stresse, être en fight, on ne va pas se fighter et je ne vais pas courir du studio, je ne vais pas partir du studio en courant.
Donc la thérapie, en fait, c'est d'avoir conscience, d'apprendre à avoir conscience de ces mécanismes pour s'en libérer d'une certaine façon.
Exactement.
Parmi les nombreux mécanismes dont on peut être malheureusement victime malgré nous, il y en a un que vous appelez la preuve anecdotique, notamment, c'est le fait de se dire, vous voyez, telle ou telle chose est bonne ou mauvaise, mais en utilisant simplement un seul exemple. Notamment, vous parlez des jeux vidéo,
par exemple.
Vous voulez interdire les jeux vidéo violents ?
Ah ben, vous savez, on parlait au départ de ce qui s'est passé à Toulouse. Très souvent, ces meurtres de masse sont associés à des jeux vidéo violents que les gens ont vus écouter. C'est pas la cause, mais ça crée un climat.
Nous venons d'écouter une interview de Jacques Cheminade, un ancien candidat à la présidentielle en France, et qui nous parlait, qui faisait le parallèle entre la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse et puis les jeux vidéo. Donc là, c'est ce genre de parallèle que vous dénoncez justement.
Alors oui, Jacques Cheminade fait deux erreurs dans son raisonnement. La première, c'est de la preuve anecdotique, donc il choisit une personne, il généralise. La deuxième, c'est un biais de sélection, c'est-à-dire il compte.
La preuve anecdotique déjà, donc c'est le fait, ce type est un un tueur, ce type jouait aux jeux vidéo, donc c'est la preuve que les jeux vidéo mènent au meurtre.
Ou bien, par exemple, mon grand-père a fumé jusqu'à ses 120 ans, il n'a jamais eu le cancer, donc fumer ne cause pas de cancer. C'est un grand-père, mais si on prend une cohorte de 100 grands-pères qui ont fumé, pas beaucoup sont arrivés à cet âge-là.
Par l'anecdote, c'est l'idée qu'on prend, c'est l'exemple, et on va en faire une généralité, et ça amène à des erreurs.
Donc, le deuxième erreur qu'il fait, c'est un biais de sélection, et surtout, il compte les cas où il y a eu des attentats, et il compte pas tous les joueurs. Des millions de gens qui jouent aux jeux vidéo tous les jours et qui tuent personne.
Oui, donc, bien sélection, c'est ça en fait.
C'est comme si tueur avait les cheveux noirs. Donc toutes les personnes brunes, en fait, c'est potentiellement des tueurs. Il faut qu'on les rase ou bien qu'on les pousse à devenir blonds.
Alors, ça peut paraître idiot, dit comme ça, mais en vérité, ce sont des erreurs, des biais très fréquentes, même à la télévision, dans les médias, dans la vie courante.
C'est hyper commun. D'ailleurs, pendant, par exemple, l'élection présidentielle en France, on a fait une sorte de veille sur les erreurs de logique dans les débats présidentiels qui sont disponibles sur notre blog chiasma.co, où on a pris un exemple,
oui,
une
erreur de... donc chiasma.co, d'accord,
qui est le collectif qu'on a créé, et donc on a illustré une erreur de logique de chaque candidat, donc chaque candidat a au moins fait une, voire plus, mais on illustre ça, c'est très 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 commun, certains le font de bonne foi, mais dans le cas des politiciens, on va dire qu'une grande partie, c'est...
Par exemple, donnez-nous juste un exemple.
Il y a l'appel à l'émotion. Par exemple, souvent, on va dire, vous voulez... hier, par exemple, il y avait un candidat du... Ça s'appelle maintenant le Rassemblement National, je pense le Front National, sur Internet que j'ai vu, où il veut interdire l'accès aux soins pour les personnes présentes en situation irrégulière sur le territoire. Et il disait, vous voulez soigner les gens qui sont là irrégulièrement, mais vous voulez pas soigner nos concitoyens. Et c'est un appel à l'émotion, parce que déjà, les citoyens ont accès aux mêmes droits, donc c'est pas vrai qu'il y a une compétition.
C'est pas l'un à la place
de l'autre. Donc c'est là aussi ce qu'on appelle une erreur de l'exclusion. C'est pas vrai, c'est pas un jeu à somme nulle. Et aussi, il y a un appel à l'émotion. Il disait aux journalistes, si vous voulez tellement aider les immigrants, pourquoi est-ce que vous n'en prenez pas un chez vous, à la maison, et vous payez, vos soins? Et là aussi, c'est une attaque un peu sur la personne qui n'a rien à voir. On appelle ça un non-sequitur. Ça ne se suit pas. Ce n'est pas du tout l'objet du débat, ou un chiffon rouge. On va détourner l'attention en utilisant l'émotion.
Oui, cette pensée à l'apparence d'une pensée logique, alors qu'elle n'est absolument pas logique.
Exactement. C'est un syllogisme. Ou un paralogisme où on va dire par exemple le coq chante, le soleil se lève, donc c'est le coq qui fait que le soleil se lève.
Voilà, une confusion entre la corrélation et la causalité.
Exactement.
Il y a aussi un autre chapitre auquel vous consacrez beaucoup aussi de pages, parce que c'est très intéressant et fondamental, c'est ce que vous appelez l'illusion de connaissance, en faisant bien la distinction entre l'illusion de connaissance et puis la connaissance de l'ignorance.
L'illusion de connaissance, c'est en fait, il y a quelque chose. D'ailleurs, là, il y a un article qui est sorti, là, il y a même pas deux mois, qui, par exemple, montre que les personnes qui lisent juste les titres des articles sur Facebook pensent qu'elles comprennent mieux l'article que les personnes qui vont cliquer dessus et lire l'article en entier. L'illusion de connaissance, c'est quand on a un facteur très important de confiance en notre opinion à partir d'informations très partielles. Par exemple, je viens de découvrir une nouvelle technologie, je viens de découvrir la physique quantique, je regarde une vidéo de 3-4 minutes sur YouTube ou une conférence TED, et c'est bon, je pense que je suis expert en physique quantique. Et là aussi, ça a des conséquences. Par exemple, je regarde une petite vidéo sur la vaccination, je ne m'y connais pas du tout en système immunitaire, je ne m'y connais pas du tout en vaccination, je suis convaincu que les vaccins, ça cause l'autisme, et il ne faut pas que je vaccine mes enfants.
Mais ça, c'est donc un mal du siècle, un mal de plus en plus répandu à cause d'un Internet, justement.
Oui, parce qu'on a donné de l'impression, on a donné l'illusion à tout le monde qu'ils peuvent comprendre tout très vite. Que ce soit la situation politique au Venezuela, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, tout le monde a une opinion sur tout, parce qu'il y a des conférences de personnes relativement brillantes qui vont tout simplifier, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit le livre. Dans le livre, au début, j'ai mis un avertissement que ce livre est approximatif, parce qu'on ne sait pas tout, pour essayer d'éviter au lecteur de sentir qu'il a tout compris, qu'on a tout compris sur le cerveau. Parce qu'effectivement, on est dans cette époque où on est tous un peu en illusion de connaissance, à tel point que le danger aujourd'hui n'est pas un danger d'ignorance, connaissance. C'est un danger de cette illusion de connaissance. Quelqu'un qui est ignorant apprend. Quelqu'un qui croit qu'il sait.
Mais ce qui est paradoxal, justement, c'est qu'au départ, quand on ne connaît pas du tout un sujet, on peut avoir cette illusion de connaissance, oui. Trompeuse. Et puis, au fur et à mesure qu'on développe sa connaissance, on se rend compte que finalement, on connaît pas tant que ça. Et puis, donc là, on est dans la connaissance de ce qu'on ne sait pas. Mais il y a, alors ce que vous dites aussi, vous ramenez ça à votre expérience clinique, donc il y a des gens qui, eux, sont très sûrs d'eux, alors qu'en fait, ils sont très incompétents dans un domaine professionnel, et puis ils vont avoir le boulot à la place d'autres personnes qui, elles, vont être bien plus compétentes, mais moins sûres d'elles, parce que justement, elles sont dans la connaissance de l'ignorance.
C'est ça le problème, c'est que les personnes qui ne savent pas sont sûres d'elles-mêmes, et les personnes qui savent doutent. Parce que quand on devient petit à petit expert d'un sujet, on commence à pouvoir délimiter ce qu'on ne sait pas. Et donc, on a un facteur de confiance pas très élevé. On peut tomber dans ce qu'on appelle qui est l'opposé un peu de l'illusion de connaissance, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, je sens que je ne suis pas légitime. Et donc, s'il y a une ouverture d'un poste, je ne me sens pas assez qualifié pour briguer ce poste, alors qu'une personne qui est en illusion de connaissance, elle se dit, moi, de toute façon, j'ai tout compris. Elle brigue le poste avec beaucoup d'assurance et elle risque de l'avoir, et moi pas, alors que j'ai plus de connaissances qu'elle sur le sujet.
C'est comme ça qu'on arrive à
voir des personnes incompétentes qui gouvernent, qui gèrent ou qui managent des personnes qui sont plus compétentes
qu'elles. Beaucoup plus compétentes, et oui. Donc, il faut en fait, finalement, amener les gens aussi qui sont compétents à avoir davantage de confiance en elles.
Oui,
et peut-être celles qui sont incompétentes à avoir davantage de modestie.
Oui, et aussi surtout de ne pas mélanger confiance en son opinion et connaissance réelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose avec beaucoup d'aplomb qu'il a compris.
Alors donc ces erreurs de notre cerveau peuvent aussi faire le jeu de certains charlatans. Écoutons, alors justement vous en parlez aussi de cette loi de l'attraction, cette thérapie par la loi de l'attraction fondée par une certaine Rhonda Byrne.
La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction.
Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée.
Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite.
Et ce principe peut être résumé en trois petits mots tout simples. Les pensées deviennent des faits.
Donc c'est un extrait du film Le Secret, tiré du livre alors de cette Australienne.
Qui s'appelle Rhonda Le Secret aussi.
Alors qui s'appelle Le Secret. Alors les titres de ces livres sont assez révélateurs. Le Secret, Le Pouvoir, La Magie, Le Secret au quotidien, Héros, Comment le Secret a changé ma vie. Donc pendant la diffusion de cet extrait, vous manifestiez des signes d'agacement très manifestes.
C'est... En fait, on va utiliser ce qu'on appelle des explications intuitives pour berner les gens à croire des choses qui sont complètement fausses. Et l'avantage, c'est qu'on peut, quand on invente sa théorie, on peut effectivement la décliner à l'infini. Surtout, souvent, si vous avez entendu la musique.
En quoi consiste alors concrètement cette théorie ?
Concrètement, c'est une explication intuitive. Donc, l'explication intuitive, c'est une explication qui semble être logique, mais qui ne l'est pas. Le meilleur exemple pour que tout le monde comprenne, c'est un peu la saignée. Je ne sais pas si vous savez, pendant 2000 ans, si vous êtes malade, on vous disait, on utilisait une explication intuitive. On disait, j'ai une maladie dans mon corps, la meilleure façon c'est de la sortir, et donc on saignait les gens, on faisait couler le sang en leur disant que ça va les soigner. Aujourd'hui on sait que c'est complètement absurde. C'est un peu la même chose, la loi de l'attraction, c'est de dire dans mon cerveau il y a de l'électricité, ce qui est vrai, dans nos neurones on a des électrons qui se baladent, l'électricité crée un champ magnétique. Et du coup, ce champ magnétique va attirer les énergies
mais là, par
de
contre,
l'univers.
C'est vrai qu'on
et là, c'est ce saut qui est très très problématique. En passant, et c'est souvent ça ce que font ces charlatans.
C'est par exemple
prendre une partie de choses qui a qui est potentiellement qui se tient, et après faire un saut qui là se perd complètement.
Par exemple, si on dit je veux être riche, il suffit alors de dormir en se collant un billet de banque sur le front, et on va devenir riche pendant la nuit.
Et là, quand on le dit, on sent une touche de sarcasme dans la voix, mais par exemple, si n'allez pas le voir, ou si allez le voir, piratez-le, parce que ne payez pas d'argent pour ce truc, mais dans le DVD, par exemple, sur Le Secret, c'est exactement la scène qui est décrite. C'est juste que la personne colle un chèque sur le plafond, au-dessus de son lit, elle dort en regardant le chèque tous les jours, et après elle descend, elle ouvre sa boîte aux lettres, et bim, il y a de l'argent.
Donc ces théories, ce n'est pas que des théories, puisque ce sont aussi des praticiens
qui ont beaucoup de succès, qui se font des sous sur le dos de personnes qui ne s'y connaissent pas et donc qui y croient. Et le problème, là aussi, on revient à ce problème de bonne foi, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller se former à la théorie de l'attraction et qui, elles, sont de bonne foi. Donc pas toutes les personnes qui pratiquent la théorie de l'attraction sont des charlatans. Et c'est ça le drame. C'est qu'il y a des personnes, donc Rhonda Byrne sait qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Mmh. Clairement, il y a certaines personnes en France qui savent très bien ce qu'elles sont en train de faire, mais imaginez, moi je suis pas coach et je veux me former, je trouve cette formation, je m'y connais pas du tout en magnétisme, je m'y connais pas du tout en quantique, parce que souvent ils vont mettre des mots un peu techniques, genre c'est un mécanisme quantique, c'est un champ magnétique, c'est des énergies fortes et des énergies faibles, donc des trucs qui veulent rien dire clairement. Je prends toutes mes économies et je paye 4 000 € pour me former pour devenir thérapeute en loi de l'attraction. Moi, j'y crois.
Oui, malheureusement.
Et du coup, je ne peux pas aller lui dire « tu es un charlatan, tu es en train de faire du mal aux gens ». Et du coup, si des personnes nous écoutent et font de la loi de l'attraction ou ont payé pour devenir formateur, c'est pas de votre faute, mais on peut vous expliquer. Genre, envoyez-moi un mail et je m'occuperai à répondre à chaque personne qui m'écrit sur ce sujet, parce que
on transmettra en vous en.
C'est vraiment un problème.
Les auditeurs pourront vous écrire.
Il y a de plus en plus de personnes qui font ça.
Comment notre cerveau nous vaut des tours ? Relaxons-nous en écoutant Dimitri qui interprète Stress. Question, comment notre cerveau nous vaut des tours ? Nous sommes avec le psychologue Albert Moukébert. Albert Moukébert, nous allons parler des erreurs du cerveau qui sont néfastes, négatives, mais il y a aussi des erreurs positives qui peuvent être très utiles. Et par exemple, ces utilisations dans la sécurité routière. Écoutons ce petit reportage qui nous en donne un aperçu.
On revient sur un concept qui surprend les automobilistes. Il s'agit du premier passage piéton en relief de France qui vient d'être réalisé dans cette commune. Le maire de la ville, Benjamin Dumortier, a vu cette innovation en Islande et en a fait installer deux à proximité d'une école. La société spécialisée dans le marquage au sol n'avait jamais réalisé un tel projet et l'entreprise a donc dessiné plusieurs croquis en imaginant les lignes nécessaires pour créer cette illusion d'optique. L'objectif est bien sûr d'interpeller les automobilistes et de les faire ralentir, surpris par cet effet en trois dimensions.
Alors dans cet extrait de Grand Lille TV, il ne s'agit pas d'un passage pour piétons vraiment en relief, mais qui donne l'impression d'être en relief. C'est une illusion d'optique, donc ça rejoint le thème de notre émission, comment notre cerveau nous vous détourne.
Oui, ça s'appelle un nudge. Et le nudge, c'est en fait, ça veut dire coup de pouce. C'est une manipulation de l'environnement pour changer les comportements. Donc effectivement, l'idée, par exemple, de ces passages piétons, c'est de dessiner donc au sol en 3D
quand
en illusion d'optique. Roule,
quand on s'en approche, on a l'impression que ça va monter.
Donc on ralentit.
On ralentit, oui,
mais
évidemment.
Donc on a moins de chances d'écraser des piétons. Le nudge le plus connu, c'est à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, dans les urinoirs des hommes. Les hommes faisaient pipi un peu partout et donc des chercheurs ont collé une mouche. C'est pas des chercheurs, mais des travailleurs de l'aéroport à l'époque, c'était dans les années 90, ont collé une mouche dans l'urinoir. Les toilettes étaient 70% plus propres parce que tous les hommes voulaient viser la mouche. Et oui. Donc ils visaient au milieu.
Ça paraît être, et maintenant c'est assez répandu. Un peu
c'est répandu, hein. Il y a même les gouvernements qui utilisent ça. En France, il y a une nudge unit qui s'appelle la DITP, au gouvernement américain, au gouvernement anglais. Par exemple, en France, ils travaillent sur réduire les ordonnances d'antibiotiques en envoyant des lettres aux médecins qui prescrivent trop d'antibiotiques en leur montrant combien est-ce qu'ils prescrivent par rapport à leurs confrères dans le même quartier.
Donc ça, c'est le même principe que la mouche. Alors, tout est
exactement.
Parti au départ de cette mouche dans
exactement.
Les urinoirs. Donc, c'est ça qui a donné l'idée du nudge, c'est-à-dire du coup de pouce, c'est-à-dire en quelque sorte de la façon d'inciter, pas forcément de leurrer, mais en tout cas...
C'est des incitations
d'inciter.
Douces.
Voilà, en douceur, le cerveau à faire tel ou tel comportement.
Donc, il y a plusieurs leviers.
Tel comportement.
Il y a plusieurs leviers. Le passage piéton, c'est un nudge visuel. Les antibiotiques, ce qu'on appelle des normes sociales. On peut attirer l'attention. On peut incarner une action. Par exemple, sur un bidon d'eau, montrer un message écologique pour que les personnes fassent attention. Sur les mouchoirs, par exemple, dans les toilettes. Et donc, il y a plusieurs formes. C'est un outil.
Oui, c'est très utilisé en prévention routière, en plus de ce passage pour piétons qui donnent l'impression d'être en relief. Il y a aussi des bandes blanches de plus en plus rapprochées quand on roule, donc qui donnent l'illusion d'aller vite, alors qu'en fait on ne va pas forcément plus vite, mais on ralentit.
Donc effectivement, ça c'est un nudge qui a été utilisé au Lakeshore Drive à Chicago. Et ils ont trouvé une réduction de 36% des accidents de la route, donc on dessine des bandes blanches transversales sur la route, et ça donne l'impression qu'on va plus vite, donc on ralentit.
Donc il y a beaucoup d'exemples de votre livre de ce genre de tromperie de notre cerveau, positive ou négative, par exemple. Alors il y a quelque chose que vous appelez alors les conneries pseudo-profondes, de quoi s'agit-il ?
Alors les conneries pseudo-profondes, ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, la théorie de l'attraction, c'est des phrases qui semblent porter de grandes sagesses, mais en fait qui sont complètement vides de sens et qui sont souvent utilisées par des pseudo-gourous, soit pour vendre, soit pour vendre des livres, soit pour vendre des produits de beauté, soit des produits
de
détox.
Vous avez une en tête
Par exemple, une des personnes, et ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas très bonnes, etc. Mais par exemple, Rhonda Byrne, dont on a parlé, fait pas mal de pseudo-profondes bullshit. L'expérience qui a été faite, c'était sur Deepak Chopra, où les gens ne sont incapables de faire la différence. Deepak Chopra, c'est un écrivain de self-help et inspirationnel. Souvent, ça tourne un peu genre la vie et la musique et vous êtes le danseur, etc. Des phrases qui paraissent se tenir. Et par exemple, pour Deepak Chopra, donc c'est des chercheurs qui ont essayé de demander aux personnes de faire la différence entre des phrases qui sont vraiment de Deepak Chopra versus de phrases qui ont été construites aléatoirement à partir de mots, d'une liste de
par
mots.
Par un ordinateur.
Presque un ordinateur, à partir de mots issus de tweets que Deepak Chopra a fait. Et là, les gens sont incapables de faire la différence entre la phrase réelle et la phrase qui est complètement construite, mais qui donne l'illusion donc de cette profondeur qui est pseudo-profonde, qui n'est pas vraiment profonde.
La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu une des clés de voûte de la psychologie humaine. C'est la tension qu'on ressent quand on a une contradiction en deux pensées ou une pensée
et
un comportement.
Oui, la tension en deux mots, hein, on est tendu. Hein,
on se sent une sorte de gêne.
L'apostrophe, attention.
Oui, non, ouais. La tension, genre une sorte de gêne, une tension interne qu'on ressent. Par exemple, l'exemple de la dissonance cognitive de la vie quotidienne, le plus commun, c'est quand, si je suis fumeur, quand je fume, je sais que je suis en train de faire quelque chose qui est foncièrement néfaste pour ma santé. J'ai besoin de résoudre cette incohérence entre mon comportement et ma croyance. Et donc, une dissonance cognitive appelle à une résolution. Et je vais, par exemple, me dire, mais de toute façon, on va tous mourir un jour, ou bien ça va, c'est pas très grave, ou bien c'est mon petit plaisir.
On se dit quelque chose pour se rassurer.
Pour se rassurer, pour justifier, pour éviter cette dissonance et pour retrouver sa consonance. Et cette dissonance, elle est en jeu dans plein de cas de la vie quotidienne. Par exemple, si je paye... Le marché du luxe est basé sur ça. Si je paye un sac 7000 balles, j'ai besoin de me dire quelque chose pour justifier pourquoi est-ce que j'ai payé ça. Et je vais me dire, oui, mais c'est une très bonne qualité, ou bien c'est une marque et donc ça m'acquiert un statut social. Je peux payer une montre 20 000 balles. Il y a des personnes qui payent des montres 20, 25 000 balles.
On est victime finalement de ces dissonances cognitives.
On peut être victime et on peut les utiliser aussi à notre avantage. Par exemple, si moi, par exemple, pour la procrastination, des fois j'ai tendance à procrastiner. Ça m'arrive,
c'est-à-dire remettre
toujours au lendemain. Ça m'arrive d'envoyer un mail à quelqu'un qui attend quelque chose de moi, lui dire « Ah, bah, j'ai déjà commencé le rapport et je te le rends demain à 10h du matin alors que j'ai pas écrit un mot. » Et ça va me mettre en dissonance ou ça va me forcer à devoir faire le rapport pour pas ne pas tenir ma parole vis-à-vis de cette personne. Donc, il n'y a pas de bien et de mauvais. Selon les utilisations, ça peut être néfaste.
Pour en revenir au marketing, vous parliez aussi de l'iPhone, c'est-à-dire à chaque fois. Alors, c'est basé aussi le fait de nous inciter à toujours changer de téléphone portable.
Bien sûr, l'iPhone, déjà si je paye mon iPhone 1 000 €, je vais être certain qu'il est le meilleur téléphone au monde, qu'il est meilleur que tous les téléphones Android, qu'il fait de meilleures photos, que Apple prépare tout le temps ces trucs avant de les mettre sur le marché, parce que sinon ça veut dire que j'ai payé 1 000 € pour quelque chose qui n'est pas bon. Oui. Et je suis un pigeon. Pour éviter de croire que je suis un pigeon, je vais rationaliser et me dire non, c'est un super téléphone, j'ai fait un super bon choix.
Et aussi vous parlez des violences domestiques, alors puisque là on pourra en revenir à votre pratique de clinicien, ça aussi vous pouvez aussi aider les gens à les résoudre. Avec les neurosciences,
avec les sciences cognitives, donc les neurosciences, la sociologie, la psychologie, etc. Effectivement, dans les violences domestiques, par exemple, certaines femmes qui subissent des violences domestiques et qui partent pas à cause de cette résolution de la dissonance cognitive pour justifier le fait de rester, vont par exemple se dire, bah si je me fais battre, c'est de ma faute. C'est parce que mon mari m'a dit qu'il faut pas que je lui parle quand il y a un match de foot. Je lui ai parlé, il m'a frappé, et donc c'est de ma faute. Et c'est là où, par exemple, la dissonance cognitive peut être très très mauvaise, et ces personnes développent ce qu'on appelle aussi une impuissance acquise, dont je parle aussi dans le livre.
Donc impuissance acquise, en quelques mots, c'est le fait
de croire qu'on peut plus rien faire, et qu'on doit subir.
Et vous, alors, la psychoéducation, ça consiste en quoi?
Alors, la psychoéducation, le livre, c'est un peu un livre aussi de psychoéducation, c'est d'expliquer comment fonctionnent donc ces différents mécanismes, que ce soit la dissonance cognitive, l'illusion de connaissance, etc. Parce qu'on peut être en illusion de connaissance sur soi-même. Par exemple, je peux croire que je suis très très mauvais.
Donc c'est une méthode, c'est une thérapie, la psychoéducation, qui consiste à expliquer aux gens, hein, c'est pas des entretiens de psychanalyse classique, on est allongé sur un divan, vous expliquez aux gens.
C'est une approche très active où j'explique aux personnes quels sont les tenants et aboutissants de ce qu'ils sont en train d'avoir, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la connaissance vis-à-vis de ces difficultés dans la recherche scientifique, et voir après quelles sont les choses qui pourraient les aider le plus et accompagner ensemble
un
projet thérapeutique.
Voilà, vous terminez votre livre en donnant des conseils précis, hein, par exemple se méfier des fausses argumentations, des arguments d'autorité, repérer les fausses analogies, ne pas céder à l'émotion, donc se méfier de la preuve anecdotique dont on a parlé, éviter les fausses équivalences, donc tout un tas de conseils extrêmement pratiques.
Hein. Et souvent sur soi-même, parce que souvent on parle des biais, des erreurs de raisonnement à détecter chez les autres, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est sur soi, dans son propre raisonnement.
Alors je rappelle le titre de votre livre, hein, « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary. Albert Moukébert, merci. C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Bro en coulisses. Portez-vous bien, restez curieux, merci de votre fidélité. Et dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale.